Dans Vue de Belgique ce matin, on va revenir bien sûr sur l'attentat perpétré lundi dernier à Bruxelles. On va parler du profil de l'assaillant et faire également un point sur le terrorisme en Europe. Et ce, avec Michael Dantin, que Blaise van der Linden a rencontré. Michael Dantin, criminologue à l'ULG, c'est-à-dire l'Université de Liège.
Michael Dantin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes criminologue à l'ULiège. Alors, lundi soir, un terroriste a abattu deux touristes suédois à Bruxelles. Un attentat qui a été revendiqué hier par l'État islamique, bien que commis par un seul homme. Alors, pour commencer, je le disais, cet attentat a été revendiqué hier. C'est le retour de l'État islamique et de ses attaques sur les territoires européens, Michael Dantin ?
Alors, ce n'est pas le retour de l'État islamique, ce n'est pas le retour de ses attaques, ce n'est pas le retour de ses idées. Ce n'est pas le retour de l'État islamique, parce que l'État islamique a encore la capacité de faire des revendications opportunistes. Si l'acte n'avait pas rencontré leurs objectifs, ils ne l'auraient pas revendiqué. Ce n'est pas pour autant un acte téléguidé, et la meilleure preuve en est, si on n'est pas convaincu, que, en fait, tellement peu sûr que l'État islamique allait recouvrir de son aura, entre guillemets, hein, subjectivement perçu par lui, le terroriste a lui-même revendiqué cet acte. Ce qui, dans le terrorisme islamiste d'ailleurs, est une particularité. C'est parce qu'il y a même un atypisme. Ici, c'est plus quelque chose, ces vidéos avant-après qu'on retrouve dans le terrorisme d'extrême droite d'ailleurs. Alors, ce n'est pas non plus le retour des attentats au nom des idées de l'État islamique, puisque on se souviendra que, ou en tout cas même au nom de l'islam radical, puisque on se souviendra que au mois de novembre de l'année dernière, nous avons couru un attentat qui a coûté la vie à un policier, et qu'entre-temps, des attentats ont été déjoués, des attentats parmi lesquels on retrouvait des gens animé par l'idéologie de l'islam radical et parfois telles qu'elles sont développées et portées et incarnées par l'État islamique. Et donc ceci pour vous dire qu'en réalité, de manière générale, les idées fortes, idéologies que d'ailleurs souvent les terroristes ne maîtrisent pas très finement, l'idéologie de l'État islamique et plus largement celle de l'islam radical n'a jamais cessé de circuler. Et donc il fallait malheureusement attendre qu'elle rencontre un individu motivé qui a trouvé un facteur d'opportunité avec des cibles qui pour lui avaient une valeur symbolique forte, et qui est passé à l'acte parce qu'il était prêt à le faire. Donc, ce n'est absolument pas une surprise, et le fait que l'État islamique l'ait revendiqué, c'est simplement, je dirais, le fait de se réapproprier quelque chose qui a été fait de manière autonome par quelqu'un d'autre. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de processus de sélection de carte de membre de l'État islamique, bien entendu.
Justement, comme le policier qui avait été tué hier, c'est encore un homme seul, contrairement aux attentats de 2016 ou de 2015 en France, on avait eu droit à une véritable organisation à ce moment-là. C'est le nouveau mode de fonctionnement des loups solitaires, comme on les appelle ?
C'est-à-dire que c'est effectivement plutôt à cette menace-là qu'on est confronté maintenant. Maintenant, on n'est jamais à l'abri de voir quelque chose se reconstituer avec une ligne de commandement, des moyens humains, des moyens financiers, des moyens techniques, logistiques. Mais on est plutôt dans ça. Alors, il a agi seul, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, mais c'est ce qu'on semble aujourd'hui sereinement considérer au niveau de l'enquête. Enfin, il était seul dans cette phase d'action, dans la phase de préparation, par exemple, déjà sur un plan logistique. Il a bien acheter des armes à quelqu'un ou à quelques-uns sur le marché noir des armes, donc il n'est déjà pas vraiment seul à ce niveau-là. Et puis on ne connaît pas grand-chose de sa vie, on ne voit pas où est son virage radical à proprement parler, et donc avec qui a-t-il été en contact? On a dit qu'il avait fréquenté plusieurs mosquées, que d'ailleurs dans les mosquées il avait parfois eu des comportements problématiques par rapport aux autres fidèles. Qu'est-ce qu'il a consommé comme contenu sur les réseaux sociaux? Tout ça, ça renvoie à l'impact des autres. Alors ces autres, ils ne sont peut-être pas là pour l'assister, heureusement, quelque part, ou pour finalement l'encadrer dans son passage à l'acte, mais ils ont joué, ces autres, quelque part aussi un rôle, sans exonérer l'individu de sa responsabilité principale, responsabilité d'ailleurs dont il n'aura pas à répondre, car in fine, comme vous le savez, il est décédé.
Vous le dites, au final, il n'a pas un passif très inquiétant, malgré ces quelques prises de bec avec la police, si j'ose dire. Il y a eu une faille dans les systèmes de surveillance, selon vous ?
Alors, moi j'entends que le temps des questions soit déjà un temps accéléré sur la scène médiatique et politique. Alors je ne dis pas que c'est pas légitime, mais ce que je vous dirais en préambule, c'est que c'est certainement pas le temps des réponses. Je pense d'ailleurs que c'est même pas encore le temps pour poser les bonnes questions. On a trop de pièces qui manquent. J'apprends ici récemment dans les médias qu'il aurait aussi demandé l'asile en Norvège, après avoir visiblement été conduit de la Suède. On est en train de reconstituer pièce par pièce, la trajectoire de cet individu, Et d'ailleurs, peut-être que le principal enseignement, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faudrait peut-être à l'échelle européenne, à tout le moins, pouvoir avoir ce genre d'éléments tout en respectant la vie privée pour mieux analyser les trajectoires des individus. Et donc, pour poser la question de savoir s'il y a une défaillance des systèmes de sécurité, attendons juste un peu d'avoir tous les éléments en main, de façon à poser ce qu'on estime être les bonnes questions, parce que si on ne pose pas les bonnes questions, il y a au moins une certitude, c'est que on n'apportera pas les bonnes réponses. Donc, je crois qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Maintenant, je ne me fais pas dire ce que je ne veux pas dire, en ce sens que, bien entendu, quand un attentat survient, il faut réanalyser le dispositif, le système de sécurité, pour voir s'il a ou non fonctionné, ou s'il y a eu des défaillances, ou si on peut améliorer un certain nombre de choses. Ça me semble clair. Mais par contre, n'allons pas jusqu'à, à un moment donné, oublier que le principal responsable, le coupable, c'est lui, et pas ceux qui éventuellement auraient failli, si faillite il y a eu, si défaillance il y a eu, dans leur mission de prévenir la survenance de ce genre d'attentat. C'est malheureusement trop souvent aussi une espèce de dérive qui intervient, et ça je pense qu'il faut l'éviter à tout prix, parce que ça occulte en fait toute une série de vraies causes, de vraies questions qui doivent être débattues quand un fait comme celui-ci survient.
Ces derniers temps, on a vu l'historique suédois où plusieurs Corans ont été brûlés. C'est ce qui a été revendiqué par le groupe État islamique pour être passé à l'acte. En ce moment, il y a une guerre entre Israël et le Hamas. Est-ce que ça peut aussi être une possible raison de ce passage à l'acte ?
Alors, je me permets juste de corriger parce que je suis en train de faire procéder à une analyse de la revendication de l'État islamique qui ne revendique pas tant les histoires d'autodafé de Corans dont on sait qu'elles ont agité un certain nombre de pays, même sur le plan diplomatique, de pays principalement musulmans, et encore plus agité un certain nombre de groupes radicaux. On se souvient d'une prise de position, non pas de l'État islamique, mais de Daesh. Dans la revendication, on parle plutôt de la Suède comme part importante de la coalition internationale. Et c'est là qu'on voit aussi que le terrorisme, c'est du marketing et de la communication, parce que faut pas oublier qu'entre Daesh et Al-Qaïda, il y a quand même une petite forme de concurrence, bien entendu, et qu'on se positionne différemment. Si c'était Al-Qaïda qui avait revendiqué, je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils auraient parlé des blasphèmes et des attaques liées aux autodafés de Coran. Ici, c'est un tout petit peu plus délicat. Et donc, par rapport à l'autre volet de votre question, je crois qu'on a été très vite en besogne dans le chef des autorités belges pour dire, le soir même, qu'il n'y avait aucun rapport avec le conflit, avec l'attaque terroriste, parce que là aussi, on a beaucoup trop tergiversé dans le chef des politiques et de certains experts d'ailleurs pour qualifier les choses, l'attaque terroriste sans aucun doute du Hamas en Israël. On a été très vite pour dire que ça n'avait aucun rapport. Moi je crois qu'il ne faut pas confondre le choix d'une cible et la motivation du choix de cette cible, ici qui se cristallise autour de la Suède et d'individus qui en sont les symboles facilement reconnaissables par un facteur d'opportunité puisqu'ils sont à Bruxelles avec le maillot de leur équipe nationale sur le dos pour ce match de foot, et ce qui incrémente une motivation qui fait en sorte qu'il y a un processus à la fin du processus de radicalisation d'accélération. Et cette motivation, je crois que malheureusement, sur le plan intellectuel, je n'ai aucune larme dans les yeux quand je parle de cet individu, comprenez-moi bien, on n'aura jamais la réponse à sa motivation parce que lui seul l'avait. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que de manière théorique, d'une part, ceci peut incrémenter la motivation des individus, ces conflits au Proche-Orient peuvent incrémenter la motivation des terroristes islamistes, bien entendu, comme elle peut motiver dans l'autre sens éventuellement, pas dans l'autre sens, mais des islamistes à attaquer des cibles de la communauté juive, et on le sait, c'est pour ça qu'on les a protégés, comme il ne faut pas non plus négliger le fait que la récurrence d'attentats, notamment ce qui s'est passé à Arras la semaine dernière, quand même là, c'est un enseignant qui a été tué comme un symbole, à nouveau sous son même principe de déshumanisation, où on attaque un individu, mais finalement c'est un symbole qu'on essaye de tuer, eh bien, on sait aussi quelque part, parfois l'attentat appelle l'attentat sur un plan psychologique. Les individus qui sont engagés déjà assez loin dans un processus de radicalisation se disent « mais maintenant c'est mon tour, je veux aussi d'ailleurs qu'on parle de moi ». Parce que le narcissisme, c'est très important pour comprendre ce qui amène les individus à perpétrer de tels actes. Et donc l'attentat parfois appelle l'attentat. Et donc je n'irai pas aussi vite pour dire que ça n'a aucun rapport, que c'est strictement une affaire suédo-suédoise, si j'ose m'exprimer ainsi. Je pense que ça, c'est vraiment extrêmement réducteur et ça fait partie, justement, des choses qu'il ne faut pas dire pour le moment.
Malheureusement, il nous reste une minute, Michael Dantin. Ma dernière question est la suivante. Vous l'avez dit, c'était des touristes suédois à Bruxelles. Bruxelles, place forte de l'Europe, capitale de l'Europe, c'est un geste fort pour un attentat ?
Ah, de toute façon, l'attentat, c'est un geste de propagande par la violence, mais c'est le geste de propagande, l'acte de propagande le plus fort, bien entendu. Donc, il y a toujours une dimension instrumentale et une dimension communicationnel à l'attentat. Donc le faire là, le faire avec des armes à feu, ou, outre le fait que voilà, ça donne un relief médiatique, un écho médiatique qui est certainement plus fort. Mais évidemment, le fait de le faire à Bruxelles, ça représente quelque chose. Nous sommes la ville, et vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, dans laquelle on retrouve le plus de journalistes, que donc on s'assure de facto, si vous voulez, une couverture médiatique assez importante. Cependant, faut pas non plus hypertrophier la capacité d'un terroriste à mesurer les conséquences et les retombées médiatiques de son acte. Souvent, en réalité, tout ça est un peu moins calculé, mais force est de constater ici qu'il a réussi. Et l'effet hein, qui est recherché là-derrière, c'est encore une fois, comme ce que le Hamas a fait, c'est de polariser le monde. Ici, j'espère, par rapport à ce qui s'est passé à Bruxelles, une grande majorité des personnes trouvent ça scandaleux, déplorable, horrible, voire même dégueulasse, je reprends les mots que j'ai entendus, mais il y aura toujours malheureusement une minorité de personnes qui continueront à considérer que tout cela, bien entendu, est un formidable geste de bravoure. C'est ça aussi le terrorisme, que de polariser les choses.
Michael Dantine, je rappelle que vous êtes criminologue à Lulliège. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.